Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape remercie les membres de la Fondation Centesimus Annus qui célèbre cette année le 30e anniversaire de sa création pour leur engagement à diffuser la doctrine sociale de l'Église. L'actualité de l'Église nous conduit également en République démocratique du Congo où l'Église tient le 3e congrès eucharistique national ainsi qu'au Sénégal pour vous faire part du message final de l'Assemblée plénière des évêques. L'actualité politique et sociale en Afrique concernera le Sénégal, le Nigeria et la Guinée. Dans la deuxième partie de ce programme, l'invité du jour parle du pacte éducatif en Afrique. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu dans la matinée de lundi 5 juin les membres de la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice qui célèbre cette année le 30e anniversaire de sa création avec une conférence internationale au Vatican autour du thème « Mémoire pour construire l'avenir, penser et agir en termes communautaires ». Tout a commencé après l'encyclique de Saint Jean-Paul II, écrite à l'occasion du centenaire du document Rerum Novarum de Léon XIII sur la doctrine sociale de l'Église. L'engagement s'est inscrit précisément dans cette voie, dans cette tradition, a souligné le pape. Il s'agit, en d'autres termes, de l'engagement d'étudier et de diffuser la doctrine sociale de l'Église en essayant de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de théorie, mais qu'elle peut devenir un style de vie vertueux pour faire grandir des sociétés dignes de l'homme. Dans son discours, le pape énumère les grands thèmes au centre du travail de la Fondation au cours de ces 3 décennies, la centralité de la personne, le bien commun, la solidarité et la subsidiarité. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, François a reçu les promoteurs du Green and Blue Festival. Le changement climatique nous appelle à nos responsabilités et touche avant tout les plus démunis. C'est une question de justice avant la solidarité, a rappelé le pape. Un défi formidable et exigeant car il nécessite un changement de cap, un changement de Sisyphe du modèle actuel de consommation et de production, trop souvent engagé dans la culture de l'indifférence et du gaspillage de l'environnement et des personnes. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé nonce apostolique en Zambie et au Malawi, Mgr Gianluca Perici, conseiller de nonciature, l'élevant au siège titulaire de Bolsena avec la dignité d'archevêque. Mgr Gianluca Perici est né à Bassano del Grappa en Italie le 17 septembre 1964. Il a été ordonné prêtre le 21 septembre 1991, incardiné dans le diocèse de Velletri-Segni. Il est diplômé en droit canonique. Le Saint-Père a nommé évêque de Zomba au Malawi le père Alfred Chaima, du clergé de Blantyre, jusqu'à présent secrétaire général de la Conférence épiscopale du Malawi. Le père Alfred Chaima est né le 14 juillet 1970 à Nambéra, dans l'archidiocèse de Blantyre. Il a fréquenté le petit séminaire Saint-Pie XII, étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Antoine de Kachébéré et la théologie au grand séminaire Saint-Pierre de Zomba. Il est titulaire d'un diplôme de théologie à l'Université du Malawi. Il a été ordonné prêtre le 4 juillet 1998 pour l'archidiocèse de Blantyre. À Madagascar, le Saint-Père a accepté lundi la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain d'Antananarivo, présenté par Mgr Odomari Arsène Razanakouloun. Le Saint-Père a nommé Mgr Jean de Dieu Raoulison, jusqu'à présent évêque d'Ambatondrazak, archevêque métropolitain de l'archidiocèse d'Antananarivo. L'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo où Jean-Baptiste Malenge Kadunzu nous fait part de l'ouverture du 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi.
Au congrès eucharistique national tenu à Lubumbashi, un colloque théologique de 3 jours s'est ouvert le lundi 5 juin. Le colloque vise à faire comprendre les thèmes du congrès, famille et eucharistie, sous les aspects bibliques, liturgiques, canoniques et pastorales. Le troisième congrès eucharistique national s'est ouvert le dimanche 4 juin, dimanche de la Sainte Trinité, par la messe présidée sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Monseigneur Outembi a centré l'homélie sur le sens du mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous invite à vivre entre nous l'amour, l'unité, la communion comme la relation qu'il y a entre les trois personnes divines. Si la famille, l'Église ou la nation congolaise ne vivent plus l'amour, elles se détruisent. Monseigneur Outembi a invité ainsi l'Église à puiser dans l'Eucharistie la force pour vivre l'amour du Seigneur qui a promis sa présence jusqu'à la fin des temps. En début de la messe, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a prononcé un mot d'accueil au nom de son diocèse et de la province ecclésiastique ainsi que des autorités politico-administratives des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Monseigneur Muteba a rappelé que l'Eucharistie est source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Il a souhaité la bienvenue en français et dans les quatre langues nationales, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de Mauritanie, du Cap-Vert et de Guinée-Bissau ont clôturé leur deuxième session ordinaire qui s'est déroulée du 29 mai au 2 juin au foyer de charité de Cap-de-Biche. À l'issue de cette assemblée, ils ont animé une conférence de presse à travers laquelle ils ont invité au calme et à la retenue face aux violences que subit le pays depuis quelques jours. Des précisions avec Pierre Domerson.
La session ordinaire des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, réunie au foyer de charité du Cap-de-Biche du 29 mai au 2 juin, a été l'occasion pour eux de réfléchir aux questions concernant l'Église et la nation, mais aussi de lancer un appel à la paix, à l'unité et à la responsabilité collective. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, non à la violence, oui à la paix. Évoquant l'instabilité suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sango et les violences ayant suivi, les évêques ont exprimé leurs inquiétudes. Ils ont condamné la destruction des biens et les pertes en vie humaine tout en appelant au respect du bien commun. En cette période préélectorale tendue, ils ont exhorté les acteurs politiques, économiques, sociaux et religieux à privilégier le bien national. Ils ont invité également les jeunes à résister à la manipulation et au désespoir au point de brûler, saccager et détruire les biens appartenant à autrui et à la communauté, tout en les invitant à un retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine et à la promotion du bien commun.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Restons au Sénégal où la tension retombe progressivement dans ce pays où des affrontements ont fait une nouvelle victime samedi, portant à 16 le nombre officiel de morts depuis la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison. Les Sénégalais continuent de redouter une arrestation du candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, alors que les camps de M. Sonko et du président Macky Sall se rejettent la responsabilité des violences et des morts. Le gouvernement a décidé de couper temporairement Internet sur les téléphones. Les appels à la retenue et au dialogue se sont multipliés ces 2 derniers jours, émanant de plusieurs pays, d'organisations internationales et de personnalités sénégalaises. Au Nigeria, des assaillants armés ont tué 30 personnes samedi en attaquant 6 villages dans le nord-ouest de ce pays, région tourmentée par les violences de bandes criminelles. Arrivés à bord d'une 20aine de motos, ces hommes armés ont mené des raids dans le district de Tangaza. Selon la police, les bandits ont lancé une offensive contre ces villages après que plusieurs éleveurs ont été passés à tabac dans un village voisin par un groupe d'autodéfense. En Guinée, au moins 7 jeunes écolières se sont noyées dans un naufrage d'une pirogue. Ces jeunes écolières devaient passer lundi les examens d'entrée au collège. Elles se sont noyées après que leur pirogue ait chaviré sur le fleuve Niger, près de la ville de Kouroussa en Haute-Guinée. Dans une conférence de presse, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'est dit touché par cette tragédie. La pirogue surchargée a fini par chavirer sous le poids des passagers et des marchandises. Les opérations pour retrouver des corps ont continué dimanche soir, laissant penser que le bilan n'est que provisoire. Comment les individus et les communautés ecclésiales peuvent-elles évoluer dans le monde numérique? C'est l'une des principales questions à laquelle le premier document du dicastère pour la communication essaie d'apporter des éléments de réflexion. Dans une interview, l'abbé Blaise Kanda, qui développe l'apostolat à travers les réseaux sociaux, explique l'origine de sa mission et son importance de ses moyens de communication dans l'œuvre d'évangélisation.
J'ai utilisé les réseaux sociaux comme tout citoyen qui veut être à la page, comme nous avons maintenant les téléphones portables à notre portée. Par la suite, j'ai pu découvrir que c'était une opportunité d'évangélisation. Mais c'est à la faveur du confinement que nous avons pu faire quelques vidéos, mais au début, c'était simplement des textes méditatifs. C'est à la faveur du confinement que nous avons commencé à faire des vidéos parce qu'un chrétien nous avait offert une caméra pour que nous puissions enregistrer un peu les émissions, les mettre sur YouTube pour les chrétiens qui ne pouvaient pas en ce moment-là venir à l'église. Tout ce qui est venu par la suite nous a aussi surpris, donc c'était pas prévu comme ça que ce serait un retentissement mondial comme nous le connaissons maintenant.
Quelle est la réceptivité des Congolais sur les réseaux sociaux?
Comme toute réceptivité sur les réseaux sociaux, il y a le positif et le négatif. Il y a toujours des gens qui suivent, qui changent parce qu'ils nous écrivent, ils nous donnent des témoignages. Je vois que ça aide un certain nombre de gens, mais d'autres aussi sont là pour autre chose et ne sont pas tellement attentifs à comprendre notre présence sur les réseaux sociaux, ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi nous sommes là et quoi que nous en faisons un peu trop. Nous nous disons, bon, si c'est une présence, ça peut aider quelques fidèles, même un seul fidèle, nous serons toujours là à rendre ce service.
Selon vous, quel public touchez-vous sur les réseaux sociaux?
Pour la plupart, nous touchons les catholiques et surtout la jeunesse catholique. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchés. D'ailleurs, quand nous présentons quelque chose sur notre foi, la foi catholique, pour la plupart du temps, ce sont les jeunes d'autres églises qui viennent intervenir pour demander une lumière ou pour contredire ce que nous avons dit. Mais les catholiques comme tels ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux comme on aurait pu le voir parce que nous sommes les plus nombreux. Il y a des catholiques qui sont là pour soutenir aussi l'œuvre d'évangélisation, qui se disent que c'est une manière aussi pour notre église d'être présente au monde comme lumière du monde et comme celle de la terre. Je crois que beaucoup de catholiques n'ont pas encore compris les enjeux.
Quel message souhaitez-vous porter à travers votre mission sur les réseaux sociaux?
Donc c'est le message de l'Église. Et ce message, c'est un message de salut pour tout homme qui l'écoute. Nous invitons les gens à croire au Seigneur Jésus, à lui donner leur vie, à connaître de plus en plus l'Église, mais aussi à s'engager pour changer leur société, pour changer leur monde, pour changer leur milieu de vie.
Selon vous, pourquoi est-ce important d'utiliser ce vecteur que sont les réseaux sociaux?
L'avantage, c'est que avec un message, vous atteignez plus de gens que vos propres paroissiens. Moi, par exemple, ici, j'ai 500 paroissiens réguliers. Mais alors, quand je prends le même extrait de l'homélie, je le mets sur les réseaux sociaux. Parfois, j'ai 10 000 personnes qui suivent. Donc, j'atteins un nombre beaucoup plus grand. Et je n'atteins pas seulement les chrétiens de Mbujima, j'atteins les chrétiens de Kinshasa, de Lubumbashi, du Bénin, du Togo, de la Martinique, des États-Unis, de l'Allemagne, d'un peu partout.
Abbé Blaise Kanda, aumônier de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance en République démocratique du Congo, dans des propos recueillis par Jérôme Raymond.
Invité du jour.
Quelles sont les sources des conflits au Burkina Faso et quelles en sont les conséquences sur l'éducation? Réponse de Mgr Gabriel Sayaogo, archevêque de Koupéla. Il a fait la semaine dernière une présentation intitulée « Conflits interreligieux, défis pour l'éducation ». C'était au cours de la conférence internationale co-organisée mercredi par la Fondation internationale Religion et Société et l'ambassade de la Belgique près le Saint-Siège autour du thème « Pacte éducatif du pape François, défis pour l'éducation en Afrique ». Écoutons Mgr Gabriel Sayaogo.
Quand on parle de l'éducation, nous voyons l'éducation catholique puisque nous sommes venus ici dans le cadre de l'éducation catholique.
Excellence, vous êtes une société qui vit différents conflits. Pensez-vous que ces conflits ont pour cause les religions ou bien il y a autre chose?
Bien sûr, nous pouvons dire qu'il y a quand même la religion qui s'invite, si nous prenons garde. parce que beaucoup de ceux qui posent des actes terroristes aujourd'hui, des actes violents aujourd'hui au Burkina Faso, le font en appelant le nom d'un Dieu, en invoquant le nom d'un Dieu. Mais est-ce que il n'y a pas le fait que ce soit des gens qui aient été endoctrinés, des gens qui n'aient rien compris ce à quoi ils s'engagent? Et en plus de cette situation que beaucoup qualifieraient de religieuse, je crois qu'il y a d'autres facteurs qui sont à la base de ce que nous vivons au Burkina Faso.
Et quelles seraient alors les causes des conflits dans la situation actuelle du Burkina Faso?
Aujourd'hui, au Burkina Faso, on peut retenir l'inégalité dans l'accès et la jouissance des opportunités existantes. Ça veut dire que l'État au Burkina Faso aujourd'hui se montre impuissant. Et il se montre surtout impuissant dans la distribution des richesses nationales et dans la régulation de la compétition autour de ces questions-là. Et ce sont des frustrations qui font que beaucoup s'enrôlent ou se laissent engager dans des réseaux de violence. On peut retenir aussi le déficit de la bonne gouvernance. Le Burkinabé aujourd'hui n'a plus confiance parce qu'il a vécu des expériences qui lui font comprendre que à ceux qui sont en face de lui, qui représentent l'État, en réalité ne représentent pas l'État pour lui, ils sont là pour eux-mêmes. Nous retenons encore le refus de l'alternance politique. Pendant longtemps, notre pays a été gouverné par la même classe politique. L'appareil étatique a été comme transformé en un certain clan, en un certain patrimoine clanique. Et bien sûr, les gens, cela crée des frustrations, des mécontentements. On cherche à se venger, on cherche à poser des actes qui peuvent bien sûr facilement dégénérer en des actes de violence. Et en dernier point, je noterai une non-appropriation de la notion de l'État. En ce sens que, au moment de l'indépendance, il y avait un vent patriotique qui soufflait sur tout le pays. Mais aujourd'hui, l'identité nationale n'est plus forte. Elle a cédé le pas aux identités religieuses, ethniques, culturelles qui montent en puissance. Et on voit que des gens préfèrent faire partie d'un clan religieux, d'un clan sectaire, plutôt que de se réclamer de l'État burkinabé. Nous nous sommes dit le pays des hommes intègres, mais en réalité, c'est le pays de groupuscules. C'est ce que je peux dire par rapport aux causes de la violence au Burkina Faso aujourd'hui.
Monseigneur, et comment évaluez-vous l'impact de tout ceci sur l'éducation, sur les systèmes éducatifs du Burkina Faso?
L'impact est qu'on a quand même quelques conséquences. La première conséquence, elle est générale. Et cette conséquence générale est qu'il y a des gens qui se servent de la religion comme moyen de diffusion d'idéaux de l'extrémisme violent. Et la deuxième conséquence est sur l'éducation elle-même, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation est en baisse. Il y a des gens qui essaient d'avoir une éducation solide pour leurs enfants, mais n'arrivent pas à le voir. L'avenir de tout pays se joue sur le terrain de l'éducation. Car une nation qui regarde son avenir se doit de réfléchir à l'enseignement donné à sa jeunesse et à l'éducation que celle-ci reçoit. Notre État s'est engagé à promouvoir une éducation pour tous, à promouvoir la propriété intellectuelle, mais malheureusement, nous voyons qu'aujourd'hui, quand on prend rien que cette année scolaire 2022-2023, nous notons au mois de février ou mars 2023 la bagatelle de 4607 écoles qui sont fermées. Du fait du terrorisme, quelques petits mouvements internes comme les grèves que font non seulement les élèves mais aussi quelques enseignants.
L'ordinaire du lieu de Koupéla au Burkina Faso, Monseigneur Gabriel Saaya Ogo, dans des propos recueillis par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboile qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jésus Christus. Mmh.
Alleluia, imbeli, shangwe kwa Bwana Yesu, chemchem ya uzima. Alleluia, imbeli, shangwe kwa Bwana Yesu, chemchem ya uzima.